Bonjour à tous, bienvenue à Caen pour cette nouvelle édition du Printemps Agile de Caen. Donc moi je suis super content aujourd'hui d'être là parmi vous. La semaine dernière, donc j'étais encore participant et puis j'ai été contacté par un copain dans l'équipe d'Orga et il m'a dit oh là là, avec les grèves et tout, il y avait un petit souci. Est-ce que tu auras une conf dispo? Enfin, il savait que j'avais potentiellement de la matière. Moi, une semaine avant, effectivement, c'était un petit peu short. La matière, je l'avais. Ce qui me manquait surtout, c'était un titre. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Voilà, ça se voit. Donc, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à mon titre. Donc, maintenant, il va falloir assumer un petit peu ce titre. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? À votre avis, de quoi je vais parler? Quoi d'autre?
De l'évolution de Scrum.
Ok. Autre chose? Ok. Bon, ça va être. Hein. Je pense que vous avez à peu près deviné. Alors qui je suis? Maxime. Je travaille depuis des années donc chez Orange. À la base, je suis développeur logiciel et depuis plusieurs années, j'étais Scrum Master sur l'application MyLifeBox. Et puis depuis 2 ans, j'accompagne des équipes et des projets chez Orange. En tant que facilitateur, coach, je viens de Rennes, si ça, au cas où ça ne se verrait pas. Donc je fais partie de la communauté Agile Rennes. Je suis un grand joueur et du coup vous aurez sans doute l'occasion de me rencontrer lors des événements qu'on organise à Rennes, type Agile Game Braise ou cette année, alors ce week-end dernier c'était Agile Game France. Donc voilà, ceux qui ne connaissent pas, c'est juste énorme quoi. J'ai été supporter du Stade Rennais. Été. Donc d'abord un grand merci à tous les sponsors. Je fais partie de l'équipe d'Orga d'Agile Tour Rennes. Donc je sais que c'est super compliqué à organiser et impossible sans les sponsors. Donc là, ils vous permettent d'avoir un événement gratuit. C'est quand même vraiment top. Donc on remercie tous les sponsors. Il y en a pas mal. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de bien tous les regarder, c'est important. On va commencer par interrogation surprise. Voilà, à froid comme ça, je vais vous poser des questions pour vous connaître et puis pour évaluer un petit peu certaines choses. Alors on va commencer par des questions faciles. Vous avez normalement tous, on vous a distribué, merci pour la distribution, des post-it jaunes et bleus. Ça va être facile, très facile, vous inquiétez pas. Le post-it bleu, ça veut dire oui. Bleu, oui. Voilà. Et le post-it jaune, ça veut dire non. On fait un test? Oui? Super. Il y en a qui suivent. Ok. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y a des Rennais dans la salle? Un petit peu, c'est bien.
Oui, il y en a un.
Félicitations. Est-ce que vous avez plus de 20 ans? Ok. Bon, on va être en phase. Est-ce que vous aimez le foot? Ok. Bon, il y a quand même des courageux qui sont venus, c'est bien. Est-ce que vous connaissez un petit peu Scrum? Un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout Scrum? Ok. Bon, il faudra m'interrompre alors. Bon, j'avais mis conf normalement accessible à tout public. Si vraiment vous êtes largué, il faudra me dire et je pourrais ressortir les slides de formation. Non, donc normalement ça devrait le faire. Donc voilà, ça c'était les questions faciles. Maintenant, on va passer aux questions bleues, les questions ultra compliqué. On va commencer par la première question. Lors du daily meeting, l'équipe Scrum répond à tour de rôle aux trois questions. Qu'ai-je fait hier? Que vais-je faire aujourd'hui? Est-ce que je rencontre des obstacles? Ok, beaucoup de bleu. Question suivante. Lors de la revue de sprint, l'équipe fait la démonstration pour le PO. Le product owner. Donc, effectivement, si vous connaissez pas Scrum, on va refaire un petit tour rapide sur Scrum. Ce sera plus facile. L'équipe fait du planning poker. Donc les estimations avec les cartes pendant la réunion de planification de sprint. Alors, il y a déjà des questions, il y a des incertitudes. Il y a du oui, il y a du non. Ok, du oui, du non. Et la dernière. En fin de planification, l'équipe s'engage sur une vélocité ou un périmètre de stories terminé à l'issue du sprint. Ok. Encore une majorité de bleu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement largués avec ces questions? Alors, ok. Je vais hop, m'adapter. J'ai un truc comme ça qu'on peut passer normalement. Hop. Alors, Scrum, très très rapidement. Dans les grandes lignes, le schéma, donc c'est un framework avec un certain nombre de pratiques agiles qui forment un tout cohérent autour des projets pour favoriser l'état d'esprit, les valeurs agiles, la coopération, entre autres. Donc là, ça c'est le schéma dans le schéma général. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce schéma général? Dans Scrum, il y a des événements. Donc ce sont des réunions. Parfois, certains appellent ça aussi des cérémonies, un peu dans le jargon. Donc, lors de ces événements, des événements réguliers, l'équipe se retrouve et travaille ensemble autour d'un objectif. Donc, l'idée générale, on a ici un certain nombre de choses à faire. Ces choses à faire, il va falloir les rendre « ready », c'est-à-dire on est capable de commencer à travailler dessus. L'équipe dit « ok, c'est bon, on peut travailler dessus ». Une fois qu'on est sûr qu'on peut travailler dessus, on décompose le travail, donc dans ce qu'on appelle le backlog, c'est le carnet de produits, dans le carnet de produits du sprint. Ce travail-là, donc l'équipe le planifie et le réalise au cours d'un sprint. Donc un sprint, c'est une itération. L'itération, généralement, entre une et quatre semaines. Donc pendant l'itération, les gens travaillent et tous les jours, ils vont se rencontrer lors du daily meeting. J'en ai parlé dans les questions. Tous les jours au daily meeting. Ils peuvent se poser les trois questions. Le but, c'est d'adapter le plan qui a été fait là. Est-ce qu'on est en phase avec les objectifs qu'on s'est définis là? Et est-ce que le plan tient encore la route? Est-ce qu'il faut l'adapter? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que tout se passe bien? Donc tout le monde participe au daily meeting pour un maximum de transparence de coopération et de collaboration. À l'issue du sprint, on a la sprint review. Le sprint est terminé. On regarde ce qu'on a fait. Là, ici, on avait pris des engagements. On s'était dit, on va faire tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On regarde ensemble. On regarde notamment avec les parties prenantes qui ne sont pas dans l'équipe et qui ont assisté. Ils savaient que là, on lançait des trucs. Ils ne nous revoient qu'à la fin, certaines parties prenantes. C'est important pour eux de leur donner l'info qu'ils ont loupé parce qu'ils n'étaient pas les parties prenantes au daily meeting. Donc, on fait la revue. On regarde ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, les écarts, etc. On discute. On adapte le backlog parce que là, on fait aussi une démonstration. Donc on montre le produit à nos utilisateurs, à nos parties prenantes, on le montre, on récolte du feedback, on a des retours, un maximum de retours. Et par rapport à ce qu'on a montré, on va adapter notre product backlog pour savoir ce qui serait stratégique de faire derrière. On va peut-être adapter le plan qu'on avait vu. On a livré pour produire de la valeur, on a produit quelque chose, donc on a produit quoi? À Scrum, on associe beaucoup du logiciel, mais il n'y a pas que du logiciel dans Scrum. En Scrum, on peut faire absolument tout et n'importe quoi, même un événement, tout ce que vous voulez. Vous pouvez l'organiser de cette façon-là en Scrum. Il faut effectivement arrêter d'associer Scrum avec juste l'IT et les projets informatiques. Donc ce qu'on appelle, on produit ici un incrément produit. On a produit un incrément parce que Scrum, c'est une méthode dite incrémentale et itérative et incrémentale. Merci, parfait. Et également, en fin de sprint, l'équipe fait une rétrospective. Donc là, ici, on a appris sur le produit. On a regardé notre produit. On va l'adapter potentiellement. Ici, on regarde nos modes de fonctionnement. Et est-ce que les modes de fonctionnement ont été efficaces? Il faut savoir se dire les choses, etc. Et auquel cas, on adapte les modes de fonctionnement. Donc ça, ce sont les événements de Scrum. Associés aux événements de Scrum, il y a ce qu'on appelle les artefacts. Le product backlog, le sprint backlog, l'incrément produit, il peut y avoir d'autres artefacts. Ce qu'on encourage vivement, c'est du management visuel avec des boards, des charts. Se mettre d'accord aussi sur ce qu'on appelle la definition of ready. Ça, ça peut partir parce que c'est ready, l'équipe collectivement se le dit. Definition of done, on est tous d'accord là, ça va ici, c'est terminé, on est d'accord là-dessus. Definition of done, donc sans les artefacts. Et dans Scrum, on a trois rôles uniquement qui sont identifiés. On a le Scrum Master, qui là, j'ai mis deux de ses postures, c'est pas un chef de projet, le Scrum Master, c'est plutôt un coach, un facilitateur de son équipe, quelqu'un qui fait grandir, quelqu'un qui alimente la dynamique. On a le Product Owner, donc qui est la personne qui est responsable de tout ce que l'équipe va livrer auprès des parties prenantes. Il est en charge de maximiser la valeur de ce qui va être produit sur une itération, de maximiser la valeur de ce que l'équipe va réaliser. Et l'équipe, c'est quoi? L'équipe, ce sont les équipiers agiles. Il n'y a pas d'autre titre que équipier agile. Dans équipier agile, vous avez toutes les bonnes personnes pour réussir à faire l'incrément produit. Normalement, vous avez toutes les compétences. On pourrait l'appeler ça une problem solving team. Vous lui donnez un problème et c'est le résoudre. Vous lui donnez un truc à faire, un besoin, et à la fin, elle a les compétences pour le mettre en prod auprès des utilisateurs finaux ou l'amener en démo pour choper du feedback. Donc là-dedans, des développeurs, évidemment, mais pas que, pour tous les profils, UX, idéalement des gens, effectivement, intégration, validation, des gens autour de la mise en prod et tout ce que vous voulez. Voilà le schéma général de Scrum. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Globalement? OK, ce sera plus facile à suivre dans ce cas-là, après, pour les autres. Alors, du coup, on va revenir à nos moutons, à mes questions. Elles sont où, mes questions? Vous voyez? Ah oui, elles sont là, super. Ce serait bien que je les vois aussi. Alors, pour me revenir moi, à ma présentation, ça je ferme, j'ai pas besoin. Comment ça se fait que je vois pas la même chose que, tout à fait la même chose que vous? Je vais quitter mode présentation, hop, je vais revenir, et là c'est bon. Hop, 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 j'ai fait mes questions, toc. Pratique de Scrum, donc très rapidement, donc Scrum, certains décrivent, méthode agile, pas agile, etc. De toute façon, c'est pas une méthode, c'est un framework, avec plein de bonnes choses à prendre. La preuve en est que c'est encore le framework très largement utilisé. Vous pouvez regarder au niveau de tous les chiffres partout, je ne vais pas détailler, mais globalement, ça reste encore le framework agile le plus utilisé, sur lequel les gens, globalement, il y a beaucoup de projets qui réussissent bien en utilisant Scrum. Scrum a au moins 20 ans, on va dire. Il a émergé en 85 avec... notamment ce monsieur-là, il en a entendu parler à partir de 93. Le terme Scrum avait émergé. Et voici une partie de la première équipe Scrum avec monsieur Jeff Sutherland, Jeff McKenna et John Scum. Ça ressemble un peu à Scrum, quoi. Bon. Donc, ces messieurs-là, en 93, la première équipe agile. Et en 98... ils nous ont fait une première vraie définition complète de Scrum. 98, ça vous rappelle quelque chose, ça? 98, alors c'est quoi ça déjà? Je vais chercher 98. Où est-ce que j'ai ça? Je dois avoir ça quelque part, quoi. You're back. se baisser un peu. Donc le thème du printemps agile de Caen, c'est la musique. Donc bah, moi, je vous ai mis cette musique-là, parce qu'elle me rappelle... Elle me rappelle de belles choses. Oups, voilà, comment ça se fait que ça m'a coupé le son? C'est pas sympa, ça. Bon, ça vous rappelle des choses, tout ça? Ouais. Tout le monde était né, l'a vécu. Je pense que vous devez vous souvenir à peu près de ce que vous avez fait ce jour-là. Que vous aimiez le foot ou pas, je pense qu'à peu près tout le monde doit pouvoir se souvenir de cette journée-là, généralement. Donc voilà, en 98, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé ça. Mon interprétation là-dessus, c'est que cette équipe-là, bah, elle a appliqué Scrum. Ça s'est super bien passé. On avait le product owner, Aimé Jacquet, qui lui avait une vision. Il s'est permis de virer Cantona, alors que tout le monde voulait Cantona. Il a vu qu'au niveau du collectif, sans doute, ça ne pourrait pas le faire. Il a été longtemps décrié, on s'est beaucoup moqué de lui. Il a poussé sa vision jusqu'au bout. Et puis voilà, hein, ce que ça a donné. On a eu quoi aussi? On a eu Zidane. Il avait un carnet de produits en plus. Oh, bah, merci de compléter, c'est parfait. Il avait un backlog. Ouais. Et ben voilà, je rajouterai. Son petit backlog, et son petit backlog lui a servi à bien prioriser. On avait un maestro sur le terrain, ce monsieur-là, Scrum Master, maestro, qui nous a facilité grandement la tâche sur cette Coupe du Monde. On avait aussi un super capitaine qui n'est pas sur la photo, avec Deschamps, si je ne dis pas de bêtises. Et puis on avait une équipe, un collectif juste fantastique, quoi. Donc en 98, là où avant ça n'a pas marché, on a essayé, on s'est cassé les dents. 94, ça a été dur, et puis j'en passais des meilleurs, même les générations d'avant, Platini, il y avait plein de belles choses, mais ça ne l'a pas fait. En 98, ça l'a fait. Ils ont remis ça en 2000. Ils n'ont pas trop changé la recette, et on a gardé à peu près les mêmes. En 2000, ça l'a bien fait également. Par contre, après, voilà quoi. Donc là, la mayonnaise avait bien pris. C'est un petit peu plus compliqué. Donc ces années-là, ça a été un petit peu plus compliqué, quoi. On avait le Scrum Master blessé. Qui doit quitter son équipe. On a fait ce qu'on a pu au niveau du collectif, mais ça l'a un petit peu moins bien fait quand même. Ça l'a carrément pas bien fait du tout, en fait. Voilà, on a enchaîné des périodes difficiles. Le Scrum Master, on l'a fait revenir. Il a bien assuré. Jusqu'au dernier moment, quelqu'un lui a dit qu'il n'était pas agile. Ben, il l'a un peu mal pris. Donc voilà, ben, ça s'est terminé aussi comme vous savez. On a eu ça aussi, qui était pas mal, hein, dans ces années-là. Donc des gens qui ont essayé de pratiquer du Scrum un petit peu à leur façon. Scrum, rugby, bon, bah voilà, on peut tenter. Hein. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, là, c'est passé. On a eu ça aussi. Donc des rétrospectives qui duraient un petit peu trop longtemps. Et puis, quelqu'un, le PO, qui venait expliquer à tout le monde qu'en fait, c'était le backlog n'était pas très ready, que l'équipe avait pas très envie, quoi. On a eu quelques petits problèmes de communication au sein de l'équipe. Bref, un collectif pas terrible, des années... des années à oublier, quoi. Enfin, sans intérêt, ces années-là. Des années douloureuses. Très douloureuses. Donc, je vous propose qu'on n'en parle pas. Voilà, ça sert à rien. C'était des années pas intéressantes. C'était le bazar. Au niveau du foot... Et pas que. Au niveau de Scrum aussi, donc on revient à nos moutons, rassurez-vous. Au niveau de Scrum, pendant ces années-là, on a vu l'émergence du Scrum Bot. Donc, on a découvert Scrum, on s'est dit, tiens, Scrum, bah, ça a l'air bien, on va picorer, on va essayer. Et puis, on est agile, finalement, on fait ce qu'on veut, quoi. Enfin, on va prendre un petit peu tout, quoi. Et puis, on va adapter. Donc, le Scrum Bot, c'est « we do Scrum », on fait du Scrum Bot, enfin, mais... on fait du Scrum, mais par exemple, on fait plus de rétro, parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Donc, on fait des daily meetings. Quand Scrum Master n'est pas là, c'est pareil, ça, honnêtement, ça sert à rien, quoi. Donc, le Scrum Bot, c'est généralement une adaptation pour de mauvaises raisons, une incompréhension du framework, des valeurs et des bénéfices qui sont attendus en pratiquant le Scrum. Voire même un déguisement agile. On s'est dit, bah tiens, on a nos processus. Hop, on va mettre un petit vernis de Scrum et puis ça y est, on est agile et c'est génial. Il se trouve que généralement, valait mieux même pas essayer de faire du Scrum Bot, parfois de prendre le process existant, il produisait des résultats, de le passer en Scrum et de devenir agile, on a tendance à faire n'importe quoi. Donc voilà, généralement, Scrum Bot, c'est une imitation. On peut se permettre du Scrum Bot quand on est vraiment à un très très haut niveau de compréhension au niveau de Scrum et qu'on a compris quels sont les bénéfices de chacune des pratiques et on enlève une pratique, le daily meeting, on remplace par une autre pratique qui apporte le bénéfice équivalent. Mais dans ces années-là, on n'y était pas parce qu'on avait, on n'avait pas de guide, quoi. On a bien vu, en 98 ça a bien marché, 2000 aussi, et puis après ça a été un peu n'importe quoi. Donc voilà, Scrum Bot, là je me suis permis, hein, c'était complètement gratuit. Mais bon, on va pas se gêner. Hein. Donc le Scrum Guide, il est arrivé en 2010 pour nous sauver tous, pour enfin nous éviter du Scrum Bot, pour nous éviter des catastrophes au niveau du foot également. Donc Scrum nous a rappelé, donc là on a une définition de ce qu'est le Scrum Guide, donc pour adresser des problèmes complexes. Scrum est adapté effectivement dans nos environnements complexes, c'est pas un monde binaire solution-réponse. Il faut être capable de faire émerger les solutions dans cet environnement complexe, donc de produire de façon créative, apporter de la valeur et on priorise au maximum par la valeur. Le carnet de produits, on cherche à maximiser la valeur. On ne cherche pas à aller plus vite. Dans le sprint, ça s'appelle un sprint, mais ce n'est pas les gens qui sprintent, hein, c'est les stories qui sprintent, c'est le contenu qui sprint. Et on ne cherche pas non plus à aller vite, on cherche surtout à maximiser la quantité de travail non fait. C'est comme ça qu'on va plus vite. On va produire essentiellement de la valeur et en fait, tout ce qu'on va travailler sur qu'est-ce qui apporte de la valeur et ce qui n'apporte pas de la valeur, on ne le fait pas et comme ça, on va gagner du temps. Par contre, ce qu'on fait, on le fait bien. On est extrêmement exigeant sur la qualité. Scrum est très léger. Scrum Guide, 19 pages et encore les annexes et tout ce que vous voulez. Scrum est finalement simple à comprendre, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'espère globalement vous avez compris. Ça ne vaut pas une formation, si vous voulez en formation c'est encore mieux, mais au moins ça vous donne un petit peu les grandes lignes. Scrum il est très simple à comprendre, par contre il est très difficile à maîtriser. Ça c'est écrit dans le Scrum Guide quasiment dès le début. Donc c'est pour ça qu'on a vu que ça peut être un petit peu compliqué. Donc le Scrum Guide, là je vous ai indiqué là, les révisions du Scrum Guide en 2010, entre temps on a eu des révisions. Et je vous invite également, au vu de vos résultats au quiz, à faire vos révisions également. On va y revenir tout à l'heure. Et à regarder un peu de plus près ce Scrum Guide. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va réviser notre Scrum Guide. 2011, donc première révision du Scrum Guide. L'équipe ne s'engage pas sur un périmètre de story, ne s'engage pas sur une vélocité, ne s'engage pas sur un nombre de stories. Elle s'engage sur un objectif. Et c'est ça qui va nous driver tous les jours. L'autre objectif, qu'est-ce qu'on a prévu comme quel est notre objectif à la fin du sprint? Ça peut être une démo pour des grands clients, ça peut être de faire une feature, donc une fonctionnalité de bout en bout, et c'est pas grave si on ne fait pas toute la fonctionnalité, à partir du moment où on fait les stories, donc les stories c'est à l'intérieur des features, qui apportent le plus de valeur, on s'accorde avec le product owner en testant, en développant au fil de l'eau. Donc c'est l'objectif qui nous drive au fur et à mesure du sprint, le daily meeting. On est tous devant l'objectif du sprint et on s'assure, est-ce qu'on est en train de converger vers l'objectif de sprint? Si ce n'est pas le cas, on voit comment on peut s'arranger collectivement pour y revenir, ou le product owner qui fait partie de l'équipe est là également, et avec lui, on voit comment cet objectif, s'il peut être tenu ou pas, et est-ce qu'il faut communiquer, est-ce qu'il y a des problèmes. En 2013, donc, on parle de mûrissement. Je vous ai parlé de la session de mûrissement là, tout à l'heure. La session de mûrissement, elle n'apparaît pas vraiment dans le Scrum Guide. C'est une bonne pratique qui a émergé pour faire en sorte que le backlog soit prêt au lancement de sprint. Et que le lancement de sprint, on n'y passe pas la journée, qu'on n'y passe pas trois plombes parce qu'il n'y a rien qui est prêt et que finalement, à la fin de la journée, comme il n'y a plus le temps, bah, de toute façon, bah, le sprint il est prêt. On y va. Donc, on fait mûrir le backlog et on fait en sorte que tout soit prêt pour que le jour J, où on lance le sprint, ça soit plus léger. Donc voilà, je vous ai posé ici des questions sur le daily meeting. Je vous inviterai à relire dans Scrum Guide. Donc les questions que je vous ai montrées tout à l'heure, ça c'est des questions il y a longtemps. Voilà. Maintenant les questions, l'objectif c'est, est-ce qu'on est en phase avec l'objectif de sprint? Qu'est-ce que j'ai fait hier pour avancer vers l'objectif de sprint? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et comment je vais aider collectivement l'équipe pour avancer vers l'objectif de sprint? Et est-ce que j'ai des difficultés? Est-ce qu'il y a des problèmes par rapport pour avancer vers cet objectif du sprint? En 2016, une révision du Scrum Guide autour des valeurs pour rappeler que Scrum, ce n'est pas juste des pratiques. Que si on fait les pratiques et qu'on n'observe pas ces valeurs-là, c'est qu'il y a un problème. Si on fait un daily meeting, que les gens se parlent mal, ils font du reporting auprès de je ne sais pas trop qui, ce n'est pas un daily meeting. Donc, ils ont rappelé l'essence même autour de l'agilité, c'est plus les valeurs, c'est l'état d'esprit. Les événements que je vous ai montrés, les rôles que je vous ai montrés, les artefacts que je vous ai montrés tout à l'heure, contribuent, en les utilisant, en les pratiquant, à faire en sorte que ces valeurs-là émergent. Même si l'équipe, à la base, elle n'est pas très agile, un des gros avantages de Scrum, c'est qu'en pratiquant, en respectant Scrum au début à la lettre, on va finalement faire émerger de la transparence, du courage, on va être capable de se focaliser sur l'objectif, on va avoir plus d'engagement, on est capable de s'engager parce que les trucs sont ready, on les sent bien, quoi. On ne se les fait pas pousser. On va se respecter, évidemment, notamment en rétrospective. On va être ouvert, on va être transparent auprès de nos parties prenantes sur l'avancement, sur tout ce qu'on fait, parce qu'on est dans une totale confiance, on est en zone de sécurité psychologique, et la sécurité psychologique, c'est un des critères numéro un pour des équipes performantes. Parce que Scrum, on fait, les équipes sont performantes, on fait, évidemment, on est mieux au travail, et aussi on fait, bah, évidemment, du meilleur business. Donc pour en revenir sur les questions de tout à l'heure, lors de la revue de sprint, l'équipe fait la démo pour le PO. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase-là? Pas seulement. Kervin?
Donc c'est le PO qui fait la démo aux parties prenantes.
Alors le PO fait la revue généralement, c'est lui qui anime la revue. La démo, c'est bien que ça soit à l'équipe. Si le PO peut faire la démo aussi, bah, il montre qu'il s'est impliqué, qu'effectivement il est complètement solidaire de son équipe. Voilà, qui fait la revue. Ce qu'il faut retenir aussi, qui est important cette phrase-là, le PO, s'il découvre le produit le jour de la démo, bah, ça ne le fait pas, sauf bonne surprise. Le PO, il fait partie de l'équipe. Le PO, il vit au quotidien, il est là au daily meeting. Le PO, il utilise le produit. Donc, dans les vieilles versions de Scrum, effectivement, on livrait à la fin, et le PO, il jouait avec, et il donnait, il distribuait les bons, les mauvais points en démo, et c'était pas terrible. Et généralement, on avait des écarts très importants, ce qui fait que le backlog, il était fortement modifié, et que tout ce qu'on avait fait en sprint, il y avait la moitié des stories, voire plus, qu'il fallait revoir. Donc le PO joue régulièrement avec le produit, on lui le livre le plus souvent possible. Idéalement, il est dans la même pièce avec l'équipe, il joue avec, il fait des retours. Tiens, j'avais pensé ça, etc., etc. La user story, de toute façon, c'est un échange, c'est une discussion avec le PO. On ne formalise pas tout tant que la discussion, tant qu'on n'est pas vraiment sûr. Une fois que le truc, on en est vraiment sûr, qu'on le sent bien, là, on peut spécifier dans le détail pour si d'autres équipes n'ont pas accès au PO. Et si on veut après garder, notamment avec le plan, et puis pour aider au niveau du plan de test par exemple. Donc voilà, le PO fait partie de l'équipe et on ne fait pas la démo pour lui. La démo, elle sert surtout pour les parties prenantes qui n'ont pas assisté au sprint. Et elles qui vont avoir du feedback. Et c'est ce feedback-là va être intéressant. Donc il faut inviter aussi les bonnes parties prenantes, évidemment. L'équipe fait du planning poker. Donc le planning poker, ça sert à quoi? Ça sert à échanger, à discuter. Ça sert, dans le fond, on cherche à faire des estimations, mais le plus important, c'est on se met tous d'accord sur notre bonne compréhension. On a un truc à faire. Est-ce qu'on est tous d'accord? Est-ce qu'on a tous compris? S'il y en a un qui met 3, il y en a un qui met 10, enfin qui met 11, bon. Je suis défumé à chiffres, il faut s'en souvenir. c'est qu'on a un problème de compréhension. Et si on le fait le jour du daily meeting, le jour de la planification du sprint, excusez-moi, là on a un problème parce que ça veut dire qu'on n'est absolument pas prêt, que nos stories ne sont pas ready, qu'on va y passer encore la journée, qu'on va peut-être zapper la... On va bâcler le lancement du sprint, on va peut-être bâcler la rétro, on va peut-être bâcler la démo, etc., etc. Donc on le fait ça avant, pendant les sessions de mûrissement, on fait mûrir le backlog pour que le jour J, on soit mieux. En fin de planification, l'équipe s'engage sur une vélocité ou un périmètre. Donc là, il y a beaucoup d'équipes qui font ça, effectivement. Par contre, ça peut créer des problèmes après. Bon, on avait prévu 10 points, non, on en a fait 12, on en a fait 8, etc. Ce n'est pas des discussions qui apportent beaucoup de valeur au final, qui apportent surtout beaucoup de frustration, de la démotivation. Donc, on travaille surtout autour de l'objectif de sprint. Et à partir du moment où l'objectif il est atteint, on est content. Et ce n'est pas parce qu'on a fait plus ou moins de vélocité ou plus ou moins de story. On se focalise vraiment sur cet objectif. Alors, du coup, le Scrum Guide. On a des gens qui trouvaient ça, qui trouvaient ça très bien, mais qui ont voulu aller plus loin. Pour eux, ça n'allait pas encore assez loin, ça ne répondait pas à tout. Et donc, on a ces deux personnes, Dan Rowford et Doug Schimp, qui nous ont écrit un livre, là, Exploring Scrum, qui apparemment est très bien. Moi, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, j'ai lu une des traductions françaises, on va dire. Claude Aubry, en France, c'est la référence sur Scrum avec son guide de la méthode. C'est inspiré de ce livre-là pour proposer des choses pour, en complément de Scrum, parce que Scrum ne répond pas forcément à tout. Donc, on travaille des fois en amont de Scrum, autour de certaines choses pour collecter autour du besoin, sur du story mapping, de l'impact mapping, du Lean Startup, des choses comme ça. On travaille en aval de Scrum avec du DevOps et puis en général sur toutes les bonnes pratiques d'ingénierie logicielle. Donc ces gens-là, ils avaient écrit ce livre-là, ils ont fait une proposition. Et là, vous allez me voir venir le Scrum 3.0. 3.0, 3.0, enfin bon, ça vous rappelle du truc. Voilà, donc le Scrum 3.0, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un document qui se veut une extension logique du Scrum Guide. Donc on a vu le Scrum Guide, 19 pages. Bon, pour eux, ça fait pas assez, quoi. Il manque des trucs ou ça répond pas à tout. Donc, qui se veut agile de façon maximale. Je vous ai dit que je m'appelais Maxime, non. Ouais. Alors, easy to understood, c'est simple à comprendre. Et scalable through fractalisation. Donc, on parle beaucoup d'agilité à l'échelle. Et donc, ce framework-là, c'est les propositions qu'il y a dedans, serait un peu plus, permettrait un peu plus facile l'agilité à l'échelle. On reviendra dessus par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce Scrum 3.0? Et déjà, Scrum 3.0, c'est quoi en fait le 3.0? Donc on l'a vu tout à l'heure, on l'a peut-être pas vu en grand. 98, on en a parlé. Ils estiment que c'était le Scrum 1.0. Le Product Owner, à l'époque, il ne fait pas partie de l'équipe. Contrairement à ce que je vous ai dit, le Product Owner, il n'est pas là au daily meeting, il n'est pas forcément là sur le terrain. Il échange en permanence avec les parties prenantes, il échange avec l'équipe, il échange avec le Scrum Master. Mais il n'est pas vraiment impliqué dans l'équipe. Si vous vous souvenez, avant le premier Scrum Guide aussi, on parlait des poulets et des cochons. Là, si vous vous souvenez de ça, ils l'ont enlevé parce que ça faisait pas très sérieux. À partir de, c'était encore rigolo. Donc la métaphore des poulets et des cochons, c'est le poulet et le cochon voulaient ouvrir un restaurant ensemble. Ah bah super, on va faire un restaurant. Comment chacun va contribuer? La poule a dit, moi c'est facile, moi je vais donner les œufs, puis toi tu vas donner tes côtelettes, tu vas donner j'arrête, enfin tout ce que tu veux. Et le cochon a dit, c'est pas très équitable quoi. Parce que moi je donne vraiment de moi-même, et toi tu vas juste donner une extension de toi-même, tu es moins impliqué que moi. Et ça a été une métaphore autour de Scrum au début, pour parler justement des personnes qui sont vraiment impliquées dans l'équipe, c'était les cochons, qui s'impliquent à fond, et les poulets, les chickens, c'était tous les gens qui gravitaient autour, qui avaient tous un avis sur tout, et puis qui au final perturbaient le bon fonctionnement. Le PO au début, n'étant pas dans l'équipe, pouvait s'apparenter un peu plus à un chicken. Donc tout ça, vous pourrez retrouver les chickens et les pigs, par contre c'était plus très sérieux, Scrum commençait à devenir sérieux, donc à partir du Scrum Guide 2011, on a arrêté de parler des poulets et des cochons, mais l'idée générale reste encore là. Donc on a dit 10 ans compliqués, 10 ans on n'en parle plus hein, dans la mémoire. Donc moi j'ai arrêté le football, là j'ai remis mon maillot, mais donc le maillot il date de 2008 je pense. 2008, donc du Scrum 2.0, j'ai arrêté le foot et moi je me suis vraiment intéressé à Scrum. Et Scrum c'était vraiment intéressant. Le Product Owner il considère qu'il fait vraiment partie de l'équipe. Le Scrum Master aussi, il n'a pas un rôle productif mais il fait vraiment partie de l'équipe. Il est pas dans son bureau pour venir voir l'équipe une fois de temps en temps. Ils sont à 100%. Donc c'est ça qu'ils appellent Scrum 2.0. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils appellent Scrum 3.0? Alors, les évolutions. On s'est rendu compte que le PO, il est souvent débordé. Est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent Scrum dans la salle? Un petit peu. Est-ce que votre PO, il est disponible, il arrive à tout faire? Il est tout le temps là, il est sur le terrain, il est à la fois avec les parties prenantes et à la fois dans l'équipe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un PO qui est un vrai PO, quoi, qui arrive à être à la fois sur le terrain, aller avec les équipes et les parties prenantes, en même temps qui sait qu'à parler le langage de la technique, des équipes, le langage du business? Est-ce qu'il y a des gens qui ont ça dans la salle? Bien. Il faudra que tu me donnes le nom de ton PO, là, ça m'intéresse. Donc, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on n'y arrive pas, puis on observe sur le terrain, généralement, ce qu'on appelle des proxy PO. Donc, on a le PO et on a le proxy PO. Donc, on a le PO qui est plus avec le marketing, qui est plus sur la stratégie, et le proxy PO qui est sur le terrain avec les équipes, qui relaie la bonne parole. Ça fait deux personnes qui doivent être synchronisées en permanence, qui doivent avoir la même vision, la même délégation, les mêmes priorités. Comme dans les grandes organisations, de toute façon, des fois, il faut occuper tout le monde et on peut trouver une armée de PO. Déjà, quand on n'a que deux, c'est très bien. On peut en avoir beaucoup plus. Là, l'idée qu'ils avaient derrière ça, c'est partant du constat qu'on n'y arrive pas, on va proposer de découper le travail en deux au niveau du PO avec deux personnes qui sont ultra synchronisées. La personne qui va plus appeler le business owner, qui est plutôt côté marketing, et le team captain, qui lui est au plus proche de l'équipe. Et ces personnes-là sont censées faire qu'une seule personne, mais dans la réalité, elles en font deux, et il faut qu'elles communiquent de manière à n'en faire qu'une seule. Donc le business owner, il est avec la partie prenante côté business pour la priorisation stratégique. Donc là, ce qu'on observe dans Scrum 3.0, ce qu'il raconte, il est en charge de maximiser la valeur de ce qui va être livré et il est aussi accountable, c'est le responsable pour la roadmap, pour essayer de dire, prédire, je ne sais pas trop comment il fait, en tout cas, les dates de livraison. Le deuxième, le team captain. Donc le team captain, il est près de l'équipe, il est au plus près de l'équipe pour la priorisation tactique au jour le jour, au quotidien. Il est vraiment dans l'équipe. Donc le team captain, on dit un leader de l'équipe Scrum qui est responsable auprès du business owner. Lui, il est responsable auprès de lui et lui, il est responsable auprès des parties prenantes. Enfin, tout le monde est responsable auprès des parties prenantes, mais bon, ça, c'est l'idée. Il doit effectivement, au quotidien, faire en sorte qu'on maximise et on facilite le travail de l'équipe avec, évidemment, le Scrum Master. Donc, ça donne quoi? Le business owner au plus près des parties prenantes. Les parties prenantes, toutes les personnes donc, qui ont un intérêt dans ce qui va être produit dans Scrum. Donc, ça peut être les clients, ça peut être tout ce que vous voulez, les gens du marketing, etc. Enfin, tous les gens qui ne sont pas vraiment dans l'équipe. Le team captain et le business owner sont là. Et là, au quotidien, ils sont ensemble. Donc, ça, c'est une proposition de Scrum 3.0. Qui représente un petit peu des choses qui se passent dans la réalité, qu'ils ont formalisé comme ça. Team captain, business owner, ok? Dans l'idée. Scrum master, alors Scrum master, ils ont fait pareil, ils se sont dit le Scrum master, un bon Scrum master, il y a beaucoup de Scrum master effectivement qui sont au four et moulin, qui font tout un tas de choses, mais un bon Scrum master, il doit prendre le temps d'être au plus près de son équipe, de la coacher, de la manager, de la faire grandir. C'est lui vraiment le manager de proximité. Le manager du 21e siècle, c'est un coach facilitateur, un manager agile du moins, pour faire grandir son équipe. Il est vraiment avec cette équipe-là. L'idée aussi, c'est que le Scrum Master, idéalement, il est aussi capable d'aller n'importe où dans l'organisation pour prêcher la bonne parole autour de l'agilité de Scrum, pour aider le product owner, pour aider les parties prenantes, pour aider un peu tout le monde dans la bonne application de Scrum. Il se trouve que ça c'est compliqué, que ça prend du temps. Donc là, ils ont imaginé un rôle autour du Scrum Master. Le Scrum Master reste au plus près de son équipe, mais il a un Change Agent, donc quelqu'un qui travaille avec l'organisation au plus près pour l'aider à adapter Scrum, bien comprendre et à diffuser l'agilité le plus largement possible pour que l'équipe Scrum ne soit pas un ISO, qu'il n'y a pas que le développement, une toute petite partie de l'organisation qui sont en Scrum, mais pour que l'agilité s'étende au niveau des valeurs le plus loin possible pour qu'on travaille dans le meilleur des mondes, évidemment. Voilà, le coach, le team captain, et puis là, je cherchais le change agent, Donc c'est Monsieur Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, qui était anobli par la reine. Donc il a travaillé avec l'organisation, avec son pays. Un des plus grands entraîneurs de tous les temps, Manchester United. Alors, on va terminer sur Scrum 3.0 avec quelques concepts complémentaires autour du backlog. Donc le backlog, il faut le voir dans Scrum 3.0 comme un flux Kanban. On n'attend pas forcément que tout soit ready, que tout soit prêt pour prendre un engagement, pour lancer. On a quelque chose qui arrive un petit peu au fil de l'eau. Ici, là, ces gens-là travaillent sur un résultat backlog. On travaille sur un backlog en amont. On y met les idées, on fait mûrir, etc., etc. Quand les choses commencent à être prêtes, on les insère dans le flux de travail de l'équipe. Et l'équipe continue ses cérémonies qu'on a vues, lancer des sprints, etc. Mais elle n'est pas obligée de savoir au lancement de sprint si elle a suffisamment de story ready pour pouvoir démarrer. Bon, après, il faut aussi être capable de fixer un objectif de sprint. Mais c'est ça un petit peu l'idée générale, c'est qu'on laisse de la latence. Des choses peuvent arriver un petit peu au fil de l'eau, sous forme de flux. Et on continue les rituels. Par contre, on simplifie le lancement du sprint. On n'a pas forcément besoin d'avoir tout ready. Et on essaye d'être encore plus agile, d'être encore plus capable de... Dans un sprint, on n'aime pas l'équipe Scrum part sur un objectif avec un certain nombre de stories. Si on enlève la moitié des stories, autant arrêter le sprint, c'est compliqué. Là, l'idée, c'est comment est-ce qu'on pourrait être encore plus agile, potentiellement, en prenant un petit peu certains principes. On observe des équipes qui font à la fois du Kanban, donc avec un flux tiré, et du Scrum, ils appellent ça parfois du Scrumban. Bon, on peut retrouver un petit peu ces idées-là là-dedans. Donc le résultat backlog, là j'en ai parlé, le backlog en amont avec des objets un peu plus macro, ça pourrait s'apparenter au tableau des features. Le tableau des features, c'est pour les parties prenantes, ça ne les intéresse pas forcément le détail des stories, c'est beaucoup trop petit. Par contre, eux, de manière générale, la fonctionnalité, bon, sur ce sprint-là, on va faire telle fonctionnalité, et puis on se verra à la fin. Donc, on a qui existe un tableau de features, déjà, c'est une bonne pratique au niveau de Scrum. Là, ici, il l'appelle le Result Backlog. Et le Work Backlog, c'est vraiment le travail au quotidien, les stories, les tâches, et ce sur quoi se met l'équipe de réalisation plutôt au quotidien. Ils regardent pas, ils vont travailler là-dessus, mais un petit peu moins, parce que peut-être qu'il y a là-dedans, il y a plein de choses qui vont partir à la poubelle. Donc on se focalise sur le work backlog. Et pour terminer, dans les grandes idées, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce backlog-là? Ils ont identifié ce qu'ils appellent les chores. Donc, j'aime pas trop ce terme-là, parce qu'on a l'impression que c'est des corvées, si on traduit. Les chores, ce sont des... On va mettre dans... Donc l'idée de Scrum, c'est qu'on met tout dans le backlog. Tout ce qu'on doit faire, si on le met pas dans le backlog, l'équipe va pas forcément en fait penser à le faire. Donc les tâches techniques qui n'apportent pas directement de la valeur, mais par contre qui sont indispensables, toutes les stories techniques, les tâches et tout, la réduction de la dette technique par exemple, tout ça on met dans le backlog, et ils appellent ça des chores. Tout ce qui apporte de la valeur métier pour le business, ils appellent ça les capabilities, et tout ce qui est de l'amélioration continue. On a fait une rétrospective, on s'est dit plein d'actions, c'est super, il faudrait qu'on fasse tout ça. Et puis on se voit à la prochaine rétrospective, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a dit? En fait, on n'a rien fait. Et souvent, pourquoi on n'a rien fait au niveau de l'amélioration continue? On n'avait pas le temps, etc., etc. Parce qu'on a travaillé en fait que là-dessus. Avec un peu de chance, on a aussi travaillé un peu là-dessus. Généralement, le product owner, lui, il va dire, moi, je veux que vous fassiez tout ça à fond. Là, ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéresse pas. Bon, il faut bien lui expliquer que ça, c'est super important. Et que ça, c'est aussi super important. Donc, le fait de le rendre visible dans le backlog avec des noms, ça permet un arbitrage. Et de le rendre, on rend tout le travail visible. On est absolument transparent. Et justement, que cette proximité avec le PO lui permet de prendre des décisions, de prioriser un peu plus en connaissance de cause. Donc là, l'idée, à chaque fin de rétro, on adresse au moins un sujet essentiel sur lequel il y aura une action essentiel pour améliorer le travail de l'équipe, et c'est dans le backlog. Et ça doit être fait comme le reste. Sinon, ce ne sera pas fait, la plupart du temps. Voilà, c'était pas un cours sur Scrum 3.0, je vous ai donné dans les grandes lignes. Pour en savoir plus, vous pouvez aller creuser là, chez ces gens qui ont proposé ce modèle-là. Donc, on a dit, on était rendu en 2016-2017. 2016-2017, on nous a proposé Scrum 3.0. Donc moi, j'ai découvert ça à cette époque-là. Et la question que je me suis dit, eh ben, les messieurs qui ont inventé le Scrum Guide, là, ils en pensent quoi de tout ça? Donc, quand est arrivé en novembre 2017, l'année dernière, en fin d'année, Le Scrum Guide 2017, moi j'ai foncé au webinar où ils allaient présenter le Scrum Guide, la nouvelle révision, pour voir est-ce qu'ils vont parler de Scrum 3.0, parce que quand même, il y a des gens qui ont proposé d'étendre le modèle. Donc j'étais présent et j'ai pas été déçu, quoi. Donc ils nous ont fait une version du Scrum, d'une révision du Scrum Guide pour répondre aux interrogations et aux questions. Quand ils vont sur le terrain, quand ils vont en conf, toutes les questions qu'on leur pose ou toutes les questions qu'on leur pose sur le forum leur font comprendre qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension autour de Scrum, que Scrum ça doit rester petit, simple, etc. Et donc ils sont venus, cette révision-là vient pour répondre aux interrogations et aux questions. Sur l'université de Scrum, je vous en ai parlé, le Scrum c'est pas que pour l'IT. Le Scrum peut être appliqué absolument partout et ils insistent fortement là-dessus. Le rôle du Scrum Master, pour que Scrum fonctionne bien, il faut un bon Scrum Master formé. Le Scrum Master, c'est pas tout et n'importe quoi, donc ils sont revenus là-dessus. Donc je vous inviterai à relire un petit peu ce qui est dedans. Le format du daily meeting, là, on y va encore plus loin. Il est libre, le format du daily meeting. Les trois questions, c'est une proposition. On n'est pas obligé de faire ça. Si on n'a pas travaillé sur l'objectif du sprint, c'est pas grave, on parle pas au daily meeting. Ou alors, on n'est pas obligé de tous parler, quoi. Ce qu'il faut, c'est qu'en 15 minutes, on adresse les principaux problèmes, les principaux choses à faire collectivement, et qu'on ne se sente pas obligé de dire ce qu'on a fait la veille pour justifier je ne sais trop quoi. Et tout le monde n'est pas obligé de parler. En priorité au daily meeting, ceux qui font, ceux qui prennent les engagements, l'équipe de réalisation en premier parle. Ensuite, en fonction du temps, le Scrum Master et le PO, c'est pas l'inverse. Le time boxing, un daily meeting, tous les événements, ce sont des boîtes de temps. On n'est pas obligé de tout utiliser. Ils ont rappelé. Des meetings 15 minutes, vous pouvez faire moins. C'est super. Pareil pour tous les événements. Tout ce qu'ils mettent dans le Scrum Guide, on vous donne les indications de temps, c'est du maximal. Si ça doit pas être. C'est pas. Il faut absolument que ça rentre là-dedans, voire faire plus. Et donc des rétrospectives efficaces, on l'a vu typiquement avec l'idée du Kaizen. Si on ne sort pas des actions efficaces qui adressent les problèmes, si on ne sait pas. Si elles ne sont pas smart nos actions, enfin c'est juste ça ne va pas marcher. Donc voilà, la révision 2017 du Scrum Guide après la proposition Scrum 3.0. Donc moi, j'assiste à ce webinaire-là. Je me dis, ouais, c'est super, mais... Jeff, quoi, Scrum 3.0, là, t'en parles pas. C'est quoi ça? Ça s'appelle Scrum 3.0. Donc 2017, pour moi, ça a été une super année parce que j'ai pu rencontrer deux de mes idoles. Donc les idoles, c'est plus ceux-là. Mes idoles, c'est plutôt ces messieurs-là. En 2017, à l'Agile Tour Rennes, on a pu faire venir Alistair Coburn, donc qui est un des signataires du Manifeste Agile, un mec fantastique. J'ai pu passer la soirée avec lui à discuter de tout un tas de choses, et c'était génial. Et en 2017, j'ai eu Monsieur Jeff Sutherland qui m'a répondu en personne. Alors là, c'était l'année fantastique. Je lui ai posé du coup des questions. Je lui ai dit, Monsieur Jeff, c'est super votre... les révisions du Scrum Guide, mais moi j'ai entendu parler de Scrum 3.0, vous en pensez quoi? Enfin, ça vaut quoi ce truc-là? Puis j'en ai posé, je dis aussi, le Scrum Guide, du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres choses. On n'arrête pas de parler d'agiter à l'échelle, à fond, à gogo partout. Vous n'en parlez pas du tout dans le Scrum Guide. C'est quoi votre position là-dessus? Du coup, Jeff m'a répondu. Et Jeff, il m'a dit quoi? Que les auteurs Doug et machin, là, ce sont des copains. Ils les aiment très bien. Il n'y a pas de souci, hein, c'est sympa ce qu'ils proposent, mais non. Non, non. Scrum, c'est Scrum. Il n'y a pas de Scrum 2.0, ni 3.0, ni quoi que ce soit. Il y a du Scrum, et le Scrum Guide, c'est la définition de Scrum. Par rapport à l'agilité à l'échelle, il me dit, je vois Scrum at Scale comme le futur. Ce qui ne m'a pas manqué de m'interroger, il y avait déjà tout un tas de frameworks, et puis Scrum at Scale arrivait un petit peu après les autres. On avait déjà du LES, du SAFE, on avait déjà du Nexus, du DAT, du tout un tas de trucs, et puis là, il me sort du Scrum at Scale, mais c'est quoi ce machin-là? Donc on va y revenir aussi. Donc ce que je me suis dit, il y a des choses dans Scrum 3.0 qui sont intéressantes. Par contre, voilà, c'est pas leur position. La référence pour eux, ça reste le Scrum Guide. Après, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Agilité à l'échelle, pour terminer, j'en ai parlé un petit peu. Donc un gros buzzword, l'agilité à l'échelle. Qu'est-ce que c'est? On entend un petit peu tout et son contraire là-dessus. Pour moi, l'agilité à l'échelle, c'est comment faire en sorte que les petites équipes Scrum qui taillent pizza team entre 7 et 10 personnes, plus ou moins 2, enfin, ces petites équipes-là, quand ça ne suffit pas, comment on découpe le problème, on découpe le travail en petites tâches, et on découpe aussi les équipes et l'organisation en petites équipes, comment ces petites équipes arrivent à travailler ensemble, à se synchroniser autour d'un objectif commun. On a vu l'objectif commun du sprint, pour chacune des équipes. Là, on a des objectifs communs au sein de toutes les équipes. Comment on les synchronise pour qu'elles travaillent ensemble? Comment elles se parlent bien? Comment elles partagent la même culture? Comment, etc., etc. Et donc, y a beaucoup de questions et plein de choses autour de ça. Voilà, donc 2018, on parle d'agilité à l'échelle. Je suis quand même obligé de revenir un peu aussi à mon sujet. 2018, Coupe du Monde en Russie. Donc, moi, je ne sais pas qui seront en tout cas à la fin, qui va se retrouver en dernier carré. En plus, ça se passe en Russie, donc voilà. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en 2018, il va y avoir au niveau des demi-finales, il va sans doute y avoir des choses intéressantes. Scrum at Scale, je vous en ai parlé. Jeff Sutherland, fondateur de Scrum Inc., avec son modèle de Scrum at Scale, avec des partenaires sympathiques. Ken Schwaber, qu'on a vu tout à l'heure sur la photo, c'est le monsieur... hop là, toc, il est où, toc. C'est le monsieur qui est là, qui est le copain du Scrum Guide. Ils sont tellement copains qu'ensemble, ils ont proposé chacun leur framework d'agilité à l'échelle. Allez savoir pourquoi. Quand on creuse un petit peu, on voit que dans les faits, ça se ressemble quand même beaucoup. Je vous invite à creuser, en tout cas, ces deux frameworks-là qui sont encore légers. Donc là, on est dans les légers, dans les frameworks sur lesquels on part d'équipes qui sont déjà agiles un minimum, qui ont déjà des rétros, etc., qui construisent ensemble des choses pour ensemble travailler mieux ensemble. C'est bon, une redite, excusez-moi. On a d'autres frameworks, un autre qui est, moi, que je trouve super, LESS, donc Craig Larman, je ne me souviens plus du nom de l'autre monsieur, mais ça, c'est aussi des super pionniers. Donc LESS, leur idée, dans l'idée LESS is more, il faut un framework aussi, le minimaliste, qui fonctionne bien, et avec une description qui est détaillé de façon très sympathique sous forme de dessin, etc. Enfin, allez creuser l'Est. Dans l'Est, ça part aussi du principe qu'on a des équipes très matures au niveau de l'agilité et qui vont construire ensemble quelque chose pour bien travailler efficacement avec un framework le plus petit possible. En face de l'ACE, en de l'Est, on a quoi évidemment? On a le gros, le mastodonte, SAFe, donc avec tout son ensemble de grosses bonnes pratiques. Donc ça, c'est la version 4.5, donc 1.0, 2, enfin bon, ça devient très très gros. Donc SAFe, lui, est plus prescriptif que les autres. On nous dit, dans SAFe, il faut que ça fonctionne bien, il faut faire tout ça. Bon, d'abord tout ça, puis après tout ça, puis après tout ça, puis après tout ça. Bon, après on nous dit aussi que c'est une bibliothèque de connaissances, effectivement, il y a plein de bonnes pratiques dedans à piocher. Là, le principe de SAFe par rapport à l'ES, LESS, on est sur plutôt de l'émergent de bonnes pratiques et on va travailler d'abord sur les équipes. Ici, on est plus dans l'idée un petit peu de Scrum. On va pratiquer, on fait tout ça, ou on fait une partie de tout ça, et les pratiques vont venir chemin faisant. Il se trouve que SAFe, ça, avec son nom, c'est très rassurant, que c'est très bien vendu. On me donne des indications de temps. Je ne sais plus combien de temps il me reste. Tu me faisais un geste, non? Ok, d'accord. Je me demandais si... voilà, dans SAFe, il se trouve que c'est actuellement le mastodonte qui est très bien vendu, qui rassure les entreprises. Voilà, donc moi, de mon point de vue, effectivement, SAFe est encore très émergent, mais je vous invite à creuser, si vous ne connaissez pas, autour de LESS, de Scrum at Scale et de Nexus, pour vous faire un petit peu votre petite idée. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser un framework non plus, comme Scrum, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Scrum, pour faire de l'agilité, pour être agile. Par contre, ça peut favoriser, les pratiques peuvent favoriser l'émergence de l'état d'esprit. Donc voilà ce que j'avais globalement à dire. Donc en 2018, je ne sais pas qui sera champion du monde. Je ne sais pas quel framework émergera le plus. Par rapport au framework, moi je souhaite que le grand vainqueur, ça soit les produits, que ça soit les équipes, que ça soit les clients finaux, plus que Manifeste Agile. Plus que les consultants, les vendeurs de framework. Et puis voilà quoi. On est terminé. Merci à vous. Donc on a un petit temps pour quelques petites questions si vous avez des choses, des interrogations par rapport à tout ce que je vous ai montré.
C'est
Pourquoi je suis le tueur?
Parce que tu dis SAFe.
Ah oui, voilà. Oui. Bon, ça, c'est une private joke d'Agile Game France le week-end dernier. Il y a des mots qui sont interdits. On s'était tous interdits de dire SAFe et si quelqu'un le disait, il était mort. Donc voilà. Vas-y, je t'en prie.
C'était facile, c'était pratique quand on imaginait que le sprint devait terminer un certain nombre de stories. Là, la notion d'objectif de sprint, je la comprends, mais ça me semble assez vague.
C'est vrai que c'est pas évident. Je suis d'accord avec toi, c'est une des premières questions que je me suis posée. On peut se dire l'objectif c'est de terminer X stories, si tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on termine pas les X stories en termes de motivation et de dynamique d'équipe? Si on peut trouver un objectif qui est un peu plus motivant que ça, on fait tel objectif parce qu'on a telle date, il y a tel client, il y a tel machin, il y a un truc super important parce qu'on veut finir un ensemble de fonctionnalités. Et si l'objectif c'est on va faire cette story là, 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 ok, bon, on va faire ça, bah super, on a fait ça quoi. Que si l'objectif c'est on va faire cette fonctionnalité là qui va nous apporter telle valeur, qui va nous permettre d'apprendre, qui va nous permettre ceci, cela. Et si notre objectif c'est d'apprendre, parce qu'on est très humble hein, sur Scrum et sur l'agilité, on livre pour apprendre. On n'est pas sûr de ce qu'on va faire. Et c'est nos clients qui vont nous dire si on a tort ou si on a raison. Du coup, on fait des hypothèses. Et du coup, l'objectif, c'est aussi de valider les hypothèses. Je suppose que le client a besoin de ça, bah, tant que je ne l'ai pas mis entre les mains. Le produit ou un prototype, on parle de MVP, en Lean Startup, bah, là, on va apprendre. Donc, un objectif de sprint, ça peut être de faire un MVP. Et un vrai MVP, ce n'est pas un produit complet. Un vrai MVP, c'est une expérimentation pour apprendre quelque chose, pour valider des hypothèses. Est-ce que ça te va comme un...
Oui, merci.
Ok.
Justement, dans une start-up, c'est exactement ce qu'on fait. Et, le product owner, au-delà d'être product owner, il a un autre métier aussi en même temps.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve sur un feature, en fait, product owner, mais en même temps, on délivre du service et on fait avancer la stratégie, etc. Et dans votre présentation, on a plus l'impression que le product owner, en fait, c'est son métier, c'est tout ça. Le product owner. Et lui, pendant toute la vie, eh ben, il fait ça pour son
truc. Ouais.
Et c'est extrêmement difficile.
C'est pour ça que dans Scrum 3.0, on s'est dit, on va décomposer. Le product owner dans Scrum, c'est un rôle à 100%. Pour une équipe de 3 à 5 personnes, pareil, il est à 100%. Dans la réalité, il y en a plein de personnes qui veulent s'appeler product owner. Après, voilà, ça c'est product owner de Scrum. Après, c'est qu'un titre, c'est qu'un nom, ce sont des rôles, ce sont des responsabilités, des choses à faire. Il se trouve que si c'est une personne qui les porte, ce sera plus efficace, ça apportera plus de valeur que si c'est plusieurs personnes ou que si c'est à temps plein, que si la personne n'est pas disponible. Il faut savoir qu'en connaissance de cause, voilà, idéalement, on est à 100%. Si ce n'est pas le cas, ok, c'est la réalité, on va dégrader les conditions, il faut juste le savoir. Si on a plusieurs personnes, il y aura plus d'interactions, il y aura plus de délais, les prises de décision seront plus compliquées. S'il n'est pas disponible, c'est pareil au quotidien, bah, on va engendrer de la latence, on va se poser plein de questions, on va peut-être faire et défaire plus de choses. On va avoir tendance à spécifier énormément, beaucoup plus, parce que le product owner, il n'est pas dispo pour répondre aux questions, donc on va spécifier énormément, et dès que ça change, ça va coûter très cher. Donc voilà, dans Scrum, la recommandation, c'est quelqu'un à 100%. Maintenant, en connaissance de cause des bénéfices, si ce n'est pas possible, on s'adapte, tout en sachant que bah, ce sera potentiellement moins bien. Mais évidemment, on ne commence pas à adapter Scrum, ce que j'ai montré, le Scrum Bot, sans avoir compris ça. En disant, j'ai un product owner, voilà, c'est lui, il va juste écrire les stories, et puis après, on n'en parle plus. Si on n'a pas compris ça, on ne va juste pas obtenir les bénéfices, ça pourrait même être pire qu'avant, en fait. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce qu'il y a d'autres... question, je regarde si j'ai encore un tout petit peu de temps. Je vais en tout cas vous. Si vous pouviez, sur les petits post-it que je vous ai laissés, m'écrire sur le post-it bleu ce qui vous a des choses qui vous ont plu dans la conf, sur le post-it jaune, des choses que vous pensez qu'on pourrait faire différemment, pour faire mieux, ou j'en sais rien, ce que ça vous inspire. Ça me permettra d'avoir du feedback. C'est la première fois que je la faisais. Donc je suis très intéressé par vos retours. Donc je vous remercie, je remercie également Claude Aubry, je vous en ai parlé. Je vous invite très fortement, si vous ne connaissez pas, à regarder son livre. Il va sortir en 2018 aussi une nouvelle édition. Donc Claude m'a inspiré une partie de ces éléments dans cette conf-là, notamment au niveau des questions du quiz. Et il m'a inspiré aussi à regarder au niveau de Exploring Scrum. Et il a été un des premiers en France à parler aussi de Scrum 3.0 sur son blog. Et je termine par un tout petit coup de pub. 21 avril 2018 à Rennes, si vous aimez jouer, vous avez l'Agile Game Braise. Très bon moment pour les joueurs. Un événement que 5 €, quoi. Plein de bons moments. Et je vous donne déjà rendez-vous pour la 10e édition de l'Agile Tour Rennes. On a décalé la date pour avoir un super lieu. Donc c'est le couvent des Jacobins, le nouveau palais des congrès. Et on vous promet un super programme avec des keynoteurs, j'espère, de fou, quoi. Et puis bonne journée, au moins aussi belle qu'aujourd'hui, la journée en tout cas commence très bien. Je vous remercie à tous et je souhaite à tous une très bonne journée, à tous et à toutes. À bientôt, merci.